Replongeons dans l'actualité maintenant. Il n'y aurait pas assez de présence de Canadiens noirs dans les programmes scolaires au Canada. C'est une information qu'on tient d'un nouveau rapport publié ce matin. Une étude, en fait, de la Commission canadienne pour l'UNESCO qui est arrivée à cette conclusion. Les programmes scolaires à travers le Canada pourraient offrir une représentation plus complète et plus significative des personnes noires, je cite le rapport. Plusieurs personnalités noires importantes de l'histoire canadienne ne sont d'ailleurs pas mentionnées dans la majorité des ouvrages. On va analyser ce rapport ce matin avec Yves Gérard Mehouloko, secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Yves Gérard, bonjour et re-bienvenue à l'émission.
Eh bien, bonjour Nicolas. Comme le disait le titre de la chanson, il n'y a pas de matin, pareil, je ne pourrai jamais tout dire.
Un vrai plaisir de vous entendre ici à nouveau, cette fois-ci dans vos nouvelles fonctions. Dites-nous un tout petit peu, Yves Gérard, qu'est-ce qui a amené l'UNESCO à se pencher sur le grand dossier de l'éducation au Canada avec cet angle de la présence des Canadiens noirs dans nos ouvrages scolaires?
Alors, comme vous le savez, l'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies qui a le mandat justement de s'intéresser à toutes les questions qui touchent l'éducation, mais aussi l'UNESCO également travaille au renforcement des cultures et à la protection du patrimoine. Donc, un des éléments qui est aussi important à noter, c'est que nous sommes actuellement vers la fin, malheureusement, de cette décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. Et nous avons fait un travail considérable quand même au Canada durant ces 10 ans et on va continuer à le faire parce qu'on ne peut pas limiter cela à une décennie seulement. Il faut qu'on continue à faire ce travail-là. Nous avions, il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, effectué d'ailleurs un premier constat dans un document qui avait été partagé, que nous avions fait à l'époque en collaboration avec le Centre mondial du pluralisme, dans lequel déjà on avait un constat comme quoi l'analyse des programmes primaires et secondaires en sciences sociales pouvait constituer un enjeu quant à la place des populations noires dans ce document. Donc, ce que nous avons effectué, c'est qu'on a commandé à ce moment-là la rédaction d'un rapport d'expertise, en fait, auprès du cabinet Turner Consulting Group. C'est important pour nous d'avoir une idée un peu plus claire, en fait, de la situation réelle avec une véritable analyse des programmes d'éducation.
Alors, voilà que cette analyse dresse un portrait. Et quand on épluche le rapport que vous avez publié ce matin, il est assez surprenant. Hein? On apprend, par exemple, que dans les documents pédagogiques, il n'y aurait pas de mention de l'esclavage qui a existé au Canada. C'est vrai, en me remémorant, moi, dans mes livres d'école, c'est vrai qu'il n'y en avait pas mention. Et il y a d'autres oublis assez importants également que vous avez constatés. Alors, qu'est-ce que vous retenez, si on rentre dans les détails, de cette évaluation globale des programmes scolaires au Canada?
Alors, ce qu'on constate, et c'est quand même assez curieux, c'est que c'est curieux, dommage, et vous-même l'avez bien dit, Nicolas, quand on se remémore notre passage et notre curriculum au primaire et au secondaire nous-mêmes, on constate qu'effectivement, on nous parle de l'esclavage, mais aux États-Unis, on ne nous parle pas de l'esclavage au Canada. Or, on sait, les registres historiques nous prouvent, par exemple, que dans la ville de Québec, il y avait des esclaves noirs à une certaine période. Et ça a été aussi le cas dans d'autres régions du pays. Donc, c'est important aujourd'hui de rétablir un petit peu cette histoire-là et ce pan de l'histoire un peu oublié. Nous avons plusieurs constats que nous avons effectués dans ce rapport. Il y en a 7, je ne les passerai quand même pas tous au crible ce matin, mais je vous dire également qu'un des éléments aussi que nous constatons, c'est que les documents pédagogiques qui sont partagés au personnel enseignant, par exemple, leur donnent l'option d'intégrer ou non la représentation des Noirs. Et là aussi, c'est un enjeu parce que l'enseignant se retrouve donc aujourd'hui avec la responsabilité d'intégrer ou non la représentation des personnes noires dans le curriculum. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de curriculum transversal qui permet une intégration de cette histoire-là et d'insister sur la présence et le rôle que les populations noires ont joué, par exemple, dans l'histoire canadienne, notamment au niveau des relations bilatérales et multilatérales au niveau international, parce que les populations noires sont impliquées au niveau par exemple, quand on parle de la Première Guerre mondiale ou quand on parle encore de la Seconde Guerre mondiale, elles sont impliquées dans le développement économique de municipalités. À Toronto, pas loin de vous, là où vous êtes assis présentement, il y avait à l'époque une compagnie de taxi qui était dirigée par une femme noire. Et donc, la première compagnie de taxi de Toronto était dirigée par une femme noire. Donc, ça, ce sont des éléments qui ne sont pas transmis. Et dans l'imaginaire collectif de la population canadienne, à ce moment-là, ne sont pas, il n'y a pas d'appropriation de cette histoire, qui est une histoire collective des Canadiens. Mmh.
Bon, vous avez évoqué le fait que les enseignants au Canada ont peut-être ne sont pas sous l'obligation de présenter une représentation des communautés noires au pays dans ce qu'ils proposent dans le matériel éducatif destiné aux jeunes. Par contre, il y a une responsabilisation individualisée donc des enseignants. S'ils veulent présenter, s'ils veulent une meilleure représentation des populations noires, ben, ils n'ont qu'à l'inclure eux-mêmes dans le curriculum. Qu'est-ce que vous pensez que cela implique comme conséquence?
Alors, ça, c'est des conséquences graves, parce que l'enseignant, comme vous le savez, quand on parle de l'enseignant primaire, il a déjà, face à lui, il ou elle a déjà toute une panoplie de matières. Lui demander de faire le choix constitue, en fait, un danger dans la mesure où on ne lui donne pas non plus les outils appropriés pour transmettre aussi cette histoire des Noirs au Canada. Et on a plutôt tendance à le faire seulement au cours du mois de février, par exemple. Mmh, alors, ouais. Que l'enseignant ait le choix de le faire devient un élément délicat dans la mesure où ça donne la possibilité, finalement, de ne pas inclure cette histoire-là dans le curriculum, dans la mesure où l'enseignant, écoutez, est-ce que ces ressources pédagogiques sont disponibles pour faire cet enseignement-là? Elles n'ont pas été développées, on n'insiste pas dessus au sein des ministères et des conseils scolaires. Donc, il y a un travail qui est à faire en amont, bien avant que ça arrive à l'enseignant, tant au niveau du développement des curriculums, au niveau du ministère, des ministères de l'Éducation, mais aussi au niveau des conseils scolaires maintenant. Les directions d'école vont devoir jouer un rôle très important maintenant pour s'assurer qu'il y ait une instruction qui soit transmise aussi aux enseignants de faire ce travail, d'inclure cela. Mais comment et où va-t-on trouver ces ressources-là? Comment vont-elles être développées? Qui va assister les conseils scolaires dans ce travail-là? Alors là, la question est posée aujourd'hui et c'est ce que un peu nous révèle ce rapport. C'est qu'il manque d'initiative et il manque d'investissement de la part des ministères de l'Éducation en ce sens-là. Et c'est absolument nécessaire dès aujourd'hui qu'on commence à faire un changement.
Je vais peut-être vous demander quelles sont les recommandations formulées dans le rapport, parce qu'il y en a. Mais d'abord, je voudrais explorer peut-être une dernière question avec vous. Vous l'avez effleuré tout à l'heure, Yves Gérard, mais quand on pense à l'histoire des Noirs en Amérique du Nord et au côté beaucoup moins glorieux de cette histoire-là, souvent, ce qui est mis de l'avant, c'est l'expérience états-unienne, n'est-ce pas? Et pas l'expérience canadienne. C'est ce qu'on m'a appris, moi, quand j'étais à l'école. Dans ce qui est devenu le conseil scolaire Mon Avenir par la suite. Mais pourquoi cette obsession, pourquoi cette fascination, pourquoi on met la loupe sur les États-Unis avant de mettre la loupe sur l'histoire du Canada?
J'aimerais penser que parce que c'est la facilité, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité et il y a un accès à des ressources qui existent aux États-Unis. Beaucoup plus qu'au Canada. Au Canada, ce n'est pas une histoire qu'on raconte, ce n'est pas une histoire également sur laquelle on insiste. Il y a plusieurs pans de l'histoire canadienne qui sont souvent éludés quand elle est négative. La question de l'esclavage au Canada, la présence de cimetières noirs et de cimetières d'esclaves au Canada est souvent mis de côté parce que ce n'est pas un sujet qui plaît. La présence également de discrimination systémique à l'endroit des populations d'origine chinoise au Canada est aussi éludée de nos livres d'histoire. Donc, ça fait partie des éléments qu'on met de côté parce qu'on a une histoire, un récit historique et un narratif qui est plutôt positif à l'endroit de notre histoire sur une ouverture, sur la construction d'un pays. Et là, aujourd'hui, il faut quand même revenir en arrière et se dire que nous sommes dans un grand travail de réconciliation avec des populations marginalisées. Je pense notamment aux populations autochtones, mais il faut aussi penser aux populations noires, aux populations chinoises et asiatiques qui ont aussi construit ce pays, tout comme à nos concitoyens musulmans qui aussi ont été victimes de discrimination systémique. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en considération, qui expliquent peut-être aussi pourquoi est-ce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un narratif qui est positif en se basant sur une expérience négative chez nos voisins du Sud, plutôt que de regarder concrètement ce qu'il s'est passé ici au Canada, quelle est la place de ces populations dans notre histoire, et plutôt leur donner la place qui leur revient et insister aussi sur leur réalisation. En début de semaine, on a beaucoup parlé de I Have a Dream de Martin Luther King, parce que c'en était le 50e anniversaire de ce discours historique. Mais on ne fait jamais rien quand il s'agit de grandes personnalités noires au Canada, quand on pense à Lincoln Alexander, par exemple, qui est tout juste pas loin de chez vous à Hamilton, bien, les citations de Lincoln Alexander, son rôle dans la construction de l'Ontario, bien, sont quasi éludées. Sinon, le fait qu'on sache tous qu'il y a un grand boulevard autour de Hamilton qui porte le nom de Lincoln Alexander, mais qui est-il réellement? Très peu de gens le savent.
Yves Gérard, avec cette réflexion qu'on a entamée ce matin, je me demande bien si les livres d'école de demain seront peut-être plus complets que ceux qu'on a consultés, que ceux que moi j'ai consultés quand j'étais plus jeune à suivre. Mais évidemment, c'est ce qu'on souhaite à la suite de votre travail, de ce rapport que vous avez publié ce matin sur les livres d'école et l'absence de représentation de l'histoire des Canadiens afrodescendants dans nos cursus scolaires. Un grand merci d'avoir été des nôtres pour nous en parler ce matin.
Ça me fait plaisir, Nicolas. Sachez qu'on va continuer à la CCUDESCO de faire un suivi à ce rapport, avec notamment une analyse maintenant des programmes d'études de langue française dans le cadre d'un suivi dans une seconde phase de projet. Donc ça, on aura certainement l'occasion d'en discuter.
Et nous, on restera donc à l'affût de ce rapport-là. Merci encore. C'était Yves Gérard Mehouloko, le secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO. 6h58 dans la salle de nouvelles, Myriam. Le Québec et l'Ontario s'échangeront désormais de l'électricité lors de leurs pointes de consommation respectives.
Voilà. Avant cette nouvelle entente, l'Ontario achetait des terawatt-heures à Hydro-Québec pour subvenir à ses besoins. Mais le premier ministre Doug Ford, vous en rappelez peut-être, a plusieurs fois indiqué son intention de cesser de payer le Québec pour son électricité. Les deux provinces ont donc conclu un protocole d'échange qui ne prévoit aucun paiement de part et d'autre. Et l'Ontario a davantage besoin d'électricité durant la saison estivale en raison de l'utilisation répandue des climatisateurs. Mais le Québec, lui, en demande davantage l'hiver pour se réchauffer.
Intéressant. Bon, on aura d'autres nouvelles locales qui nous attendent juste après ce prochain Radio-Journal. Rendez-vous ici sur nos ondes à 7h10. À tout de suite.